Et si on se laissait transporter par une merveilleuse histoire? Bienvenue dans Il était un roman, le podcast littérature jeunesse. Je suis Séverine et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour découvrir avec toi les aventures du professeur Lindenbrock et de son neveu Axel à travers le roman Voyage au centre de la Terre, écrit par Jules Verne. Pour rester informé des derniers épisodes, je t'invite à t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti! Chapitre 36. Ici se termine ce que j'ai appelé le journal de bord, heureusement sauvé de notre naufrage. Je reprends donc mon récit comme avant. Je ne peux expliquer ce qu'il se passa exactement lorsque notre radeau percuta les rochers de la côte. Je me souviens m'être senti précipité dans les flots. À ce moment précis, j'échappai à la mort grâce à Hans qui, de toutes ses forces, m'extirpa de l'eau. Le courageux Islandais me transporta sur un sable brûlant où je me trouvais côte à côte avec mon oncle. Puis, il retourna à ces dangereux rochers, toujours sous l'emprise d'une mer féroce, afin de sauver l'épave du naufrage. Je ne pouvais parler. J'étais brisée d'émotion et de fatigue. Il me fallut une longue heure pour me remettre. Cependant, une pluie diluvienne continuait à tomber, mais avec cette spécificité qui annonce la fin des orages. Nous trouvâmes refuge dans des rochers superposés qui nous offrirent un abri contre les torrents du ciel. Hans prépara des aliments auxquels je ne pus goûter et chacun de nous, épuisé par le manque de sommeil des trois dernières nuits, s'endormit profondément. Le lendemain, le temps était magnifique. Le ciel et la mer s'étaient apaisés. Toute trace de tempête avait disparu. Je fus réveillée par les paroles joyeuses du professeur qui vint me saluer.
« Eh bien, mon garçon, as-tu bien dormi ?»
J'eus cette impression de me retrouver dans la maison de Königstrasse, que je descendais tranquillement pour déjeuner et que mon mariage avec la pauvre Gretel allait se produire ce jour même. Hélas, la réalité tout autre se rappelait à moi. Il suffisait que la tempête eût jeté le radeau dans l'Est pour que nous soyons passés sous l'Allemagne, sous ma chère ville de Hambourg, sous cette rue où demeurait tout ce que j'aimais au monde. Et même si tel fut le cas, un mur vertical excessivement long et infranchissable me séparait de cette vie. Toutes ces douloureuses réflexions traversèrent mon esprit avant que je ne répondisse à la question de mon oncle. Il répéta.
« Axel, tu ne veux pas me dire si tu as bien dormi ?»«
Très bien, je suis encore brisée, mais cela devrait aller. »«
Absolument, Axel, un peu de fatigue et voilà tout. »
« Mais vous me paraissez bien heureux ce matin, mon oncle. »«
Enchanté, mon garçon, je suis enchanté. Nous sommes arrivés. »«
Au bout de notre expédition ?»«
Non, pas de notre expédition, mais de cette mer qui n'en finissait pas. Nous allons reprendre maintenant le chemin de la Terre et enfin nous enfoncer dans les profondeurs du globe. »«
Mon oncle, puis-je vous poser une question ?»«
Bien sûr, Axel, je t'écoute. »
Comment envisagez-vous le retour ?
Le retour ? Tu penses à revenir quand nous ne sommes même pas arrivés ?
Non, je veux seulement demander comment notre retour s'effectuera.
De la manière la plus simple du monde. Une fois arrivés au centre de la Terre, soit nous trouverons une route nouvelle pour remonter à la surface, ou bien nous reviendrons tout bonnement par le chemin déjà parcouru. J'aime croire qu'il ne se fermera pas derrière nous.
Dans ce cas, il faudra remettre le radeau en état de marche.
Absolument.
Mais les provisions, en reste-t-il assez pour accomplir toutes ces grandes choses?
Tu as raison de t'en inquiéter. Hans est un garçon doué et je suis sûre qu'il a su sauver la plus grande partie de la cargaison. D'ailleurs, si nous allions vérifier.
Nous quittâmes notre grotte. J'avais espoir, mais un doute persistait. Il me paraissait impossible que le terrible abordage du radeau n'eût pas anéanti tout ce qu'il transportait. Je me trompais. À mon arrivée sur le rivage, j'aperçus Hans au milieu d'une foule d'objets soigneusement ordonnés. Mon oncle lui serra la main avec un vif sentiment de reconnaissance. Cet homme, d'un dévouement surhumain, avait travaillé pendant que nous dormions et avait sauvé les objets les plus précieux au péril de sa vie. Il est vrai que nous accusions des pertes importantes, nos armes par exemple. Mais enfin, nous pouvions nous en passer. Le professeur s'écria.
« Eh bien, puisque les fusils manquent, nous renoncerons à chasser. »«
Très bien, mais les instruments ?»«
Sois soulagé, Axel, regarde, nous possédons encore le manomètre, le plus utile de tous. Avec lui, je peux calculer la profondeur et savoir quand nous aurons atteint le centre. »«
Mais la boussole ?» demandai-je.
« La voici sur ce rocher en parfait état, ainsi que le chronomètre et les thermomètres. Le chasseur est un homme formidable. »
Il fallait bien le reconnaître, concernant les instruments, rien ne manquait. Quant aux outils, j'aperçus, éparpillés sur le sable, échelles, cordes, pics, pioches, etc. Cependant, restait encore en suspens la question de nos réserves de nourriture. Je dis « Et les provisions ?»
Oui, oui, voyons cela.
Les caisses qui les transportaient étaient alignées sur le sable dans un parfait état de conservation. La mer les avait épargnées pour la plupart et nous pouvions encore compter sur 4 mois de vivres en biscuits, viande salée, genièvre et poisson sec. Le professeur s'écria.
4 mois, nous avons le temps d'aller et de revenir. Et avec ce qu'il restera, j'aimerais donner un grand dîner à tous mes collègues.
Je devrais, depuis tout ce temps, être habituée au tempérament de mon oncle. Et pourtant, cet homme-là m'étonnait toujours. Il reprit.
Maintenant, refaisons notre réserve d'eau avec la pluie laissée par l'orage dans les bassins de granit. Désormais, nous n'avons plus à craindre la soif. Quant au radeau, je vais recommander à Hans de le réparer au mieux, même si je crois qu'il ne nous servira plus.
Que voulez-vous dire, mon oncle ?
J'ai ma petite idée, mon garçon. Je crois que nous ne sortirons pas par là où nous sommes entrés. »
Je regardais le professeur avec une certaine défiance. Je me demandais s'il n'était pas devenu fou.
« Allons déjeuner !» reprit-il.
De la viande sèche, du biscuit et du thé composèrent un repas excellent. Pendant le déjeuner, je demandais à mon oncle où pensait-il que nous nous trouvions en ce moment. Je fis la remarque suivante. Il me paraît difficile de le calculer, n'est-ce pas, mon oncle ?
À calculer, en effet. C'est même impossible, puisque pendant ces 3 jours de tempête, je n'ai pu noter ni la vitesse ni la direction du radeau. Cependant, nous pouvons tenter d'effectuer une estimation.
En effet, la dernière observation a été faite à l'îlot du geyser.
À l'îlot Axel, mon garçon. Ne décline pas cet honneur de voir ton nom donné à la première île découverte au centre du massif terrestre.
Si vous voulez, à l'îlot Axel, nous avions franchi environ 1300 km de mer et nous nous trouvions à environ 3000 km de l'Islande. Que de chemin parcouru !
Très bien, partons de ce point et comptons 4 jours d'orage. Notre vitesse a dû nous permettre de parcourir environ 380 km chaque 24 heures.
Je suis d'accord avec vous. Nous pouvons donc ajouter au total un peu moins de 1500 km à notre parcours.
Très bien. Et la mer Lindenbrock mesurerait presque 3000 km d'un rivage à l'autre, de quoi rivaliser avec la mer Méditerranée.
Absolument. Et chose incroyable, mon oncle, si nos calculs s'avèrent exacts, s'étale juste au-dessus de nos têtes à l'heure actuelle cette même Méditerranée.
Vraiment ? Voilà un joli bout de chemin, mon garçon. En revanche, que nous nous trouvions sous la Méditerranée ou bien sous la Turquie, tout cela ne peut être juste que si nous ne nous sommes pas écartés de notre direction.
Non, je ne crois pas. Le vent paraissait constant. Je pense que nos calculs se tiennent.
Bon, il est facile de nous en assurer en vérifiant sur la boussole. Allons la consulter.
Le professeur se dirigea vers le rocher, là même où Hans avait déposé les instruments. Il était heureux, léger, il se frottait les mains. Un vrai jeune homme. Je le suivis, curieux de savoir si je ne me trompais pas dans mes estimations. Arrivé au rocher, mon oncle prit la boussole, la posa à plat et observa l'aiguille. Après avoir oscillé, elle s'arrêta fixement. Mon oncle regarda, puis il se frotta les yeux et regarda de nouveau. Enfin, il se retourna de mon côté, stupéfait. « Qu'y a-t-il, mon oncle ? il me fit signe d'examiner l'instrument. Une exclamation de surprise m'échappa. La fleur de l'aiguille marquait le nord, quand nous devions nous trouver au sud, littéralement le côté opposé. L'aiguille désignait la plage au lieu de pointer la pleine mer. Je remuais la boussole, je l'examinais. Elle était en parfait état et affichait obstinément cette direction inattendue. Ainsi donc, sans nous en apercevoir, la tempête avait soufflé une rafale de vent si forte qu'elle avait reconduit le radeau au rivage que nous avions quitté quelques jours auparavant. Nous étions retournés au point de départ. Chapitre 37. Toute une palette de sentiments agita le professeur Lidenbrock. La stupéfaction, l'incrédulité et enfin la colère. Jamais je ne vis homme si bouleversé d'abord, si irrité ensuite. Les fatigues de la traversée, les dangers courus, tout était à recommencer. Nous avions reculé au lieu d'avancer.
Ma volonté et ma détermination sont ainsi mises à rude épreuve. Les éléments me jouent des tours. L'air, le feu et l'eau rassemblent leurs efforts pour s'opposer à mon passage. Eh bien, je ne céderai pas, je ne reculerai pas d'un centimètre. Et nous verrons bien qui de l'homme ou de la nature l'emportera.
Debout sur le rocher, irrité, menaçant, Otto Lidenbrock semblait défier les dieux. Mais je jugeais nécessaire d'intervenir et d'apaiser sa fougue insensée. D'un ton ferme, je m'adressai à lui. Écoutez-moi, comment lutter contre l'impossible en étant si mal équipé pour un voyage en mer ? Parcourir des milliers de kilomètres en s'attaquant au vent déchaîné me semble irréalisable à bord d'un simple assemblage de poutres avec une couverture pour voile et un bâton en guise de mât. Ainsi fabriqué, notre radeau devient un jouet dont les tempêtes s'amuseraient. Tenter une seconde fois cette impossible traversée serait agir en fou. Malgré des arguments incontestables que je pus dérouler pendant 10 minutes sans être interrompu, le professeur n'en entendit pas un mot. Il s'écria
« Au radeau !»
Quelle fut sa réponse ? J'eus beau faire, supplier, m'emporter, mon oncle s'enfermait dans son entêtement. Hans terminait de réparer le radeau, inconditionnellement fidèle à mon oncle. Le professeur dit quelques mots au guide qui aussitôt embarqua les bagages et tout le nécessaire à bord. Le départ se préparait dans une atmosphère assez pure et un vent du nord-ouest plutôt bon. Que pouvais-je faire ? Résister seul contre eux deux ? Impossible ! Si seulement Hans s'était joint à moi ! Mais non, l'Islandais suivait aveuglément toutes les volontés de son maître. Résigné, j'allais prendre sur le radeau ma place habituelle, quand mon oncle m'arrêta de la main. Il dit
« Nous ne partirons que demain. Je ne dois rien négliger. Puisque le destin m'a poussé sur cette partie de la côte, je ne la quitterai pas sans l'avoir explorée.
Car si nous étions bien revenus au rivage du point de départ, ce ne fut pas exactement au même endroit. Port Gretel devait être situé plus loin, à l'ouest. Examiner avec soin les environs de ce nouvel atterrissage paraissait raisonnable. « Allons à la découverte !» dis-je. Et laissant Hans à ses occupations, nous voilà partis. Sur notre chemin, nos pieds écrasaient d'innombrables coquillages de toutes formes et de toutes grandeurs, où vécurent les animaux des premières époques. J'apercevais aussi d'énormes carapaces qui dépassaient 4 mètres de diamètre. Pendant presque 2 km, nous avions côtoyé les rivages de la mer Lidenbrock quand le sol changea subitement d'aspect. Il paraissait abîmé, parfois enfoncé, à d'autres endroits soulevé. Le massif terrestre avait subi une transformation puissante. Nous avancions difficilement sur ces cassures de granit mélangées à des silex et des quartz lorsqu'une plaine d'ossements apparut devant nos yeux. On eût dit un cimetière immense s'étalant à perte de vue où toutes les âmes vieilles de 20 siècles s'accumulaient. Là, sur une surface interminable, défilait toute la vie de l'histoire animale. Poussés par notre curiosité, nous poursuivîmes nos découvertes, nos pieds écrasant avec un bruit sec les restes de ces animaux. J'étais stupéfait. Mon oncle avait levé ses bras vers l'épaisse voûte qui nous servait de ciel. Sa bouche ouverte démesurément, ses yeux fulgurants sous la lentille de ses lunettes, sa tête remuant de haut en bas, de gauche à droite, toute sa posture exprimait son étonnement sans limite. Pour un homme passionné comme le professeur Lindenbrock, se retrouver face à une collection aussi importante d'animaux de la première époque tenait du miracle. Courant à travers cette poussière volcanique, bientôt un autre émerveillement émergea quand mon oncle remarqua un crâne dénudé qu'il ramassa. D'une voix frémissante, il s'écria
« Axel ! Axel ! Une tête humaine ! »
« Une tête humaine, mon oncle ?»«
Oui, mon neveu. Oh, combien messieurs Mill Edwards et de quatre phages seraient émerveillés de se trouver là même où je me tiens, moi, Otto Lindenbrock !»
Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts d'Il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite.